Vous êtes sur RTL.
Françaises, Français, mes chers compatriotes de métropole, d'outre-mer et de l'étranger, je tenais, en cet automne 2021, à revenir vers vous pour répondre aux interrogations, parfois aux inquiétudes qui sont les vôtres, sur notre situation sanitaire, économique, sociale et géopolitique. Depuis près de 2 ans, nous sommes confrontés à une pandémie exceptionnelle. Nous avons tous ensemble tenu, et je le crois, fait à chaque étape des choix collectifs indispensables pour protéger chacun d'entre nous et pour nous protéger comme nation. Nos décisions se sont toujours fondées sur la connaissance scientifique, sur l'impératif de nous protéger, sur la volonté d'agir de manière proportionnée et sur la conviction que la responsabilité individuelle et collective sont notre première force. C'est cela qui nous a conduit à décider à 2 reprises d'un confinement, quand il le fallait, au printemps puis à l'automne 2020. Ensuite, à tenir bon, avec un couvre-feu et des règles adaptées à chaque territoire, au début de cette année 2021, alors que beaucoup de nos voisins fermaient tout. Nous avons, depuis le début de cette année 2021, pu disposer de vaccins, en acheter puis en produire. L'Union européenne a ainsi produit plus de 2 milliards de doses de vaccins durant cette année, soit plus qu'aucune autre puissance du monde. S'agissant de la France, depuis la première vaccination en décembre 2020, nous avons injecté en 10 mois plus de 100 millions de doses. 51 millions d'entre vous sont aujourd'hui complètement vaccinés, ce qui fait de nous l'un des pays du monde les mieux protégés. Grâce au pass sanitaire et à la stratégie mise en œuvre depuis le mois de juillet dernier, nous sommes parvenus à maîtriser l'épidémie. En rappelant ces choix et nos résultats, j'ai en cet instant une pensée à la fois respectueuse et émue pour tous nos compatriotes qui ont disparu et pour leurs familles. Et je veux à nouveau remercier nos soignants, nos volontaires, nos associations, toutes celles et ceux qui ont contribué à tous ces efforts. Pour autant, nous n'en avons pas terminé avec la pandémie. D'abord, parce que des dizaines de milliers de nos compatriotes sont touchés par ce qu'on appelle le Covid long, dont les symptômes qui sont la perte de goût, d'odorat, l'épuisement, la dégradation de la santé mentale, font l'objet d'une prise en charge spécifique. Ensuite, parce que nous le savons, il nous faudra vivre avec le virus et ses variants jusqu'à ce que la population mondiale dans son ensemble soit immunisée. Et c'est pour cela que, d'ailleurs, dès le début de la pandémie, la France s'est engagée pour donner des doses aux pays les plus pauvres et les pays en voie de développement. Nous sommes au rendez-vous de cette solidarité internationale et nous continuerons de le faire. Nous n'en avons pas terminé parce qu'à court terme, l'Organisation mondiale de la santé le dit, la 5e vague a commencé en Europe. Au Royaume-Uni et en Allemagne, plus de 30 000 nouveaux cas supplémentaires sont enregistrés chaque jour. Et si grâce à vos efforts, la situation en France est plus favorable, l'augmentation de 40% en une semaine de notre taux d'incidence et la remontée des hospitalisations sont des signaux d'alerte. De même que la situation dans certains territoires d'outre-mer, où la vaccination demeure encore insuffisante dans bien des cas et qui ont beaucoup souffert ces derniers mois. Je veux ici leur dire à nouveau la solidarité nationale et leur dire que tout continuera d'être fait comme depuis le début de la crise. Tout cela doit nous conduire à la plus grande vigilance et nous pousser à agir. Parce que nous avons fait le nécessaire pour nous protéger, nous pouvons continuer à maîtriser la situation si chacun d'entre nous prend sa part. Mon premier message est ainsi un appel. Un appel à l'esprit de responsabilité des 6 millions d'entre vous qui n'ont encore reçu aucune dose de vaccin. Vaccinez-vous. Vaccinez-vous pour vous protéger. La vaccination est ouverte à tous, sauf aux enfants de moins de 12 ans. Je rappelle qu'une personne vaccinée a 11 fois moins de chances de se retrouver à l'hôpital, en soins critiques. Je rappelle aussi que des milliards d'individus sur la planète ont déjà eu le vaccin et que nous avons maintenant déjà un certain recul. Vaccinez-vous pour pouvoir vivre normalement. Avec le vaccin, il vous sera possible d'obtenir un pass sanitaire et ainsi de vous rendre librement dans les cafés, les restaurants, les lieux de culture, de sport, de loisirs, sans test PCR. Être libre dans une nation comme la France implique d'être responsable et solidaire. Je compte donc sur vous. Face au regain de l'épidémie, les plus vulnérables sont nos aînés et ceux qui souffrent d'obésité, de maladies cardiovasculaires, de maladies respiratoires ou de diabète sévère. Toutes les études montrent en effet que 6 mois après le vaccin, l'immunité diminue et donc que le risque de développer une forme grave réaugmente. La solution à cette baisse d'immunité est l'injection d'une dose de vaccin supplémentaire, ce qu'on appelle le rappel. Une campagne a été lancée depuis la fin de l'été pour tous les plus de 65 ans et les plus fragiles. Il nous faut aujourd'hui l'accélérer. Si vous avez été vacciné il y a plus de 6 mois, je vous appelle à vous protéger en prenant rendez-vous dès maintenant auprès d'un centre de vaccination, de votre médecin ou de votre pharmacien. Il est possible de faire ce rappel en même temps que le vaccin contre la grippe. À partir du 15 décembre, il vous faudra justifier d'un rappel pour prolonger la validité de votre passe sanitaire. Les personnes qui ont moins de 65 ans voient aussi la protection conférée par le vaccin diminuer au fil du temps. D'ailleurs, au moment où je vous parle, plus de 80% des personnes en réanimation ont plus de 50 ans. C'est pourquoi une campagne de rappel sera lancée à partir du début du mois de décembre pour nos compatriotes âgés de 50 à 64 ans. Nous avons saisi les autorités scientifiques afin qu'elles puissent nous indiquer dans les tout prochains jours les modalités pratiques et les échéances à suivre. De la même manière que nous avions d'ailleurs organisé, vous vous en souvenez sans doute, durant le premier semestre, la campagne de vaccination. Le vaccin, pour efficace soit-il, ne suffit pas. Dans ce contexte de reprise épidémique, il nous faut en même temps redoubler de vigilance. Tous les assouplissements, à un moment envisagé, seront donc reportés pour conserver les règles actuellement en vigueur. Même si je sais combien cela est difficile, le port du masque à l'école sera donc pour le moment maintenu. L'application des gestes barrières, qui protègent autant contre le Covid-19 que contre les maladies contagieuses de l'hiver, doit aussi faire l'objet d'une attention accrue. Nous avions tous un peu relâché nos efforts, et c'est bien normal. Il faut donc les reprendre. Les contrôles pour l'application du pass sanitaire dans les établissements concernés et pour les entrées dans les ports, les aéroports, les gares seront renforcés. Et nous continuerons, comme nous avons toujours fait, à adapter nos décisions territoire par territoire en fonction de l'évolution de l'épidémie. C'est donc grâce à la vaccination, au pass sanitaire, aux gestes barrières que nous pourrons continuer de vivre, ne pas restreindre d'autres libertés et ne pas refermer des activités. Enfin, c'est parce que la France a très tôt misé sur la recherche sur les traitements et que nous avons su en commander très en amont que nous bénéficierons d'une nouvelle arme pour lutter contre le virus avec l'arrivée dès la fin de l'année des premiers traitements réellement efficaces contre les formes graves de Covid-19. Durant toute cette période, notre nation s'est toujours attachée à protéger chacun d'entre nous sur le plan éducatif, économique et social. Nos enfants, nous avons été l'un des pays du monde qui a le plus ouvert ses écoles. Nos jeunes, nous avons accompagné les étudiants avec le repas à 1 euro et des aides spécifiques pour les boursiers. Les plus précaires, grâce à une politique d'hébergement social inédite et aux aides exceptionnelles versées, nous avons évité à près d'un demi-million de nos compatriotes de basculer dans la pauvreté. Nos artistes, artisans, indépendants, salariés, entrepreneurs ont été accompagnés avec le chômage partiel, les prêts garantis par l'État, le fonds de solidarité et de nombreuses aides sectorielles. Nous continuons et continuerons d'adapter nos réponses en fonction des besoins. C'est pourquoi, par exemple, les prêts garantis par l'État seront prolongés jusqu'en juin 2022. Nous avons aussi soutenu nos soignants. Nos soignants qui ont tant donné durant la crise et éprouvent aujourd'hui une légitime fatigue. Ils ont été augmentés de 200 à 400 euros net par mois en moyenne. 500 établissements hospitaliers vont être restaurés. Des milliers de maisons de retraite rénovées grâce à un effort sans précédent de 19 milliards d'investissements partout sur le territoire. Ces mesures, qui s'ajoutent à beaucoup d'autres, comme la fin du numerus clausus pour les médecins, ou l'augmentation du nombre de postes d'infirmiers, font que jamais, depuis la création de la Sécurité sociale, nous n'avions autant investi dans la santé. Il le fallait. Il le fallait après des décennies d'abandon, de sous-investissement. Mais il reste, je le sais, encore beaucoup à faire. Cette stratégie du quoi qu'il en coûte, couplée aux 100 milliards du plan de relance que nous avons décidé grâce à notre initiative européenne, non seulement nous a permis de résister à la crise, mais de rebondir plus fort aujourd'hui. Notre croissance dépasse les 6%. La France est en tête des grandes économies européennes. Le chômage est au plus bas depuis près de 15 ans. Et nous sommes l'un des seuls pays du monde où le pouvoir d'achat a continué à progresser en moyenne et où la pauvreté n'a pas augmenté. Nous avons réussi tout cela en maîtrisant nos dépenses publiques, puisque notre déficit sera inférieur à 5% de notre produit intérieur brut dès cette année. Tout cela, c'est le fruit de nos choix collectifs. Et c'est aujourd'hui encore que nous devons prendre de nouvelles décisions pour rester maîtres de nos vies comme citoyens et maîtres de notre destin comme nation pour les années qui viennent. Oui, parce que nous avons devant nous une forme d'accélération du monde, des grandes décisions qui sont à prendre. D'une part, notre situation économique reste toujours à consolider. Dans un monde où les tensions sur les approvisionnements et les coûts des matières premières et de l'énergie génèrent pénurie et inflation, je sais que beaucoup d'entre vous le vivent. D'autre part, parce que nous ne devons pas viser seulement 7% de chômage, mais bien le plein emploi. Nous sommes en train progressivement tous ensemble de réussir de faire en sorte que chaque Française, chaque Français puisse par son travail construire sa vie, mener à bien ses projets. Notre économie crée des emplois comme jamais, au point que dans des secteurs comme la restauration, les bâtiments en travaux publics, les services, l'artisanat ou l'industrie, tous les entrepreneurs me disent peiner à recruter aujourd'hui. Au moment où 3 millions de nos compatriotes se trouvent encore au chômage, cette situation heurte le bon sens. Pour la dépasser, pour faire en sorte que toutes les offres d'emploi soient pourvues, nous devons agir sur tous les fronts. Depuis 4 ans, le travail paye mieux, avec l'augmentation de la prime d'activité de 100 euros au niveau du SMIC, avec la défiscalisation des heures supplémentaires et des pourboires, avec les baisses d'impôts inédites. Par rapport au début du quinquennat, c'est au minimum 170 euros de pouvoir d'achat par mois en plus pour les bas salaires. Il faudra dans les années à venir poursuivre ces choix et financer notre modèle social en taxant moins le travail, encore. Nous avons aussi beaucoup formé. Avec 15 milliards d'euros mobilisés depuis 2017, jamais autant de moyens n'avaient été engagés pour la montée en compétences des moins diplômés et des demandeurs d'emploi. Pour notre jeunesse aussi, nous avons déployé un effort spécifique avec la réforme de l'apprentissage et de l'alternance, atteignant en ce moment même des chiffres records et grâce au plan « Un jeune, une solution ». Nous avons aidé 3 millions de jeunes à trouver une formation ou un emploi ou un accompagnement. Ce qui fait qu'au moment où je vous parle, le taux de chômage pour les jeunes est au plus bas depuis plus de 15 ans. Pour les 500 000 jeunes sans emploi et les moins qualifiés, j'ai annoncé dans la lignée de ce que je vous avais dit le 12 juillet dernier, le lancement pour le 1er mars prochain du contrat engagement jeune. Un contrat et non un revenu, parce qu'au droit que nous ouvrons, à savoir 20 heures de suivi intensif, une allocation pouvant aller jusqu'à 500 euros, correspondent des devoirs. Un devoir d'assiduité, devoir de suivre les formations proposées et de s'engager pleinement. Plus largement, pour que le travail permette de vivre dignement et paie toujours davantage que l'inactivité, nous conduisons en ce moment même une indispensable réforme de l'assurance chômage. Depuis un mois, les règles ont commencé à changer pour rendre la reprise du travail plus attractive dans tous les cas. Et à partir du 1er décembre de cette année, une nouvelle étape va s'engager. Il faudra avoir travaillé au moins 6 mois dans les 2 dernières années pour pouvoir être indemnisé. Alors qu'aujourd'hui, les droits au chômage sont ouverts au bout de 4 mois de travail. Enfin, Pôle emploi passera en revue les centaines de milliers d'offres d'emploi disponibles sans réponse dès les prochaines semaines. Les demandeurs d'emploi qui ne démontreront pas une recherche active verront leurs allocations suspendues. Le 12 juillet dernier, j'avais évoqué devant vous la nécessaire réforme des retraites. La situation sanitaire que nous vivons et qui est en train de se dégrader partout en Europe, le souhait unanime exprimé par les organisations syndicales et professionnelles de concentrer les efforts sur la reprise, le besoin de concorde dans ce moment que vit notre nation, font que les conditions ne sont pas réunies pour relancer aujourd'hui ce chantier. Pour autant, notre volonté de sauver notre modèle par répartition et d'en corriger les inégalités n'a pas changé. Ce 1er novembre, la retraite minimale pour les agriculteurs, qui est attendue depuis si longtemps, est entrée en vigueur. Et dès 2022, il faudra, pour préserver les pensions de nos retraités et la solidarité entre nos générations, prendre des décisions claires. Elles feront légitimement l'objet de débats démocratiques indispensables. Mais elles devront suivre, à mes yeux, des principes simples. Travailler plus longtemps en repoussant l'âge légal. Aller vers un système plus juste en supprimant les régimes spéciaux, en harmonisant les règles entre public et privé et en faisant en sorte qu'au terme d'une carrière complète, aucune pension ne puisse être inférieure à 1 000 euros. Aller enfin vers plus de liberté, c'est-à-dire permettre de partir en retraite progressivement, d'accumuler des droits plus rapidement pour celles et ceux qui le souhaitent, d'encourager le travail au-delà de l'âge légal aussi pour celles et ceux qui en ont envie. La retraite ne doit être ni une contrainte ni une angoisse, mais un choix plus libre, plus simple, plus lisible. Aujourd'hui comme hier, vous le voyez, le travail continue donc d'être notre boussole, le fil rouge de notre action. Non seulement parce que pour chacun d'entre nous, c'est le travail qui nous permet de créer des liens, d'augmenter notre pouvoir d'achat, de progresser tout simplement dans la vie en accédant à la propriété, en protégeant notre famille, nos proches, en concrétisant nos projets. Mais aussi parce que sur le plan collectif, le travail de tous est ce qui nous permet en tant que nation de faire nos choix et de garantir notre indépendance. C'est par le travail et par plus de travail que nous pourrons préserver notre modèle social, nos retraites, la prise en charge des malades, l'accompagnement des familles, la meilleure inclusion à l'école, au travail ou dans les structures adaptées pour les personnes en situation de handicap. C'est par le travail aussi que nous permettrons à nos aînés de vivre plus longtemps chez eux ou d'être accompagnés. Une cinquième branche de la sécurité sociale a été créée. Elle sera pleinement mise en œuvre dans les mois qui viennent. Et d'ici au 1er janvier, les professions du soin et de l'aide à domicile auront vu leur salaire revalorisé. Nous sommes en train collectivement, en ce moment même, malgré la pandémie, de construire pas à pas un véritable service public de l'autonomie pour nos aînés. Nous le finançons et le financerons par davantage de travail. C'est par le travail de tous que nous pourrons continuer de rendre notre État plus solide. Nous avons, depuis 2017, recruté 10 000 policiers et gendarmes. Nous avons substantiellement augmenté le budget de la justice, d'une manière inédite. Les résultats sont là. 36 attentats déjoués, la baisse d'un quart du nombre de cambriolages et de vols de véhicules, des saisies et des arrestations records en matière de trafic de drogue. Mais très clairement, nous sommes lucides sur le travail qui reste à faire. La violence est de retour dans toutes les sociétés occidentales et exige d'aller plus loin. Nous devons ainsi poursuivre et renforcer nos actions pour lutter contre les violences faites aux femmes, pour mieux protéger nos enfants. Et dans le prolongement des travaux du Beauvau, une loi de programmation pour nos sécurités intérieures est en cours de discussion. Elle sera présentée au premier trimestre 2022 et donnera plus de moyens et allégera les contraintes bureaucratiques de nos forces de l'ordre. Nous avons aussi lancé les États généraux de la justice qui, réunissant tous les acteurs, déboucheront au printemps sur des mesures fortes, à la fois pour que la justice soit rendue plus vite et que les peines prononcées soient réellement exécutées. C'est par le travail de tous, enfin, que nous pourrons bâtir notre indépendance énergétique. Nous vivons chaque jour les conséquences de la situation actuelle. Le plein plus cher à la pompe, la facture de gaz et d'électricité qui augmente. Ce que nous vivons ces dernières semaines nécessite des réponses d'urgence. C'est pour cela d'ailleurs que le gouvernement a bloqué les prix du gaz. C'est aussi pour cela que ceux d'entre vous qui gagnaient moins de 2 000 euros net par mois et recevoir une indemnité inflation exceptionnelle de 100 euros. Mais si nous voulons payer notre énergie à des tarifs raisonnables et ne pas dépendre de l'étranger, il nous faut tout à la fois continuer d'économiser l'énergie et d'investir dans la production d'énergie décarbonée sur notre sol. C'est pourquoi, pour garantir l'indépendance énergétique de la France, pour garantir l'approvisionnement électrique de notre pays et atteindre nos objectifs, en particulier la neutralité carbone en 2050, nous allons, pour la première fois depuis des décennies, relancer la construction de réacteurs nucléaires dans notre pays et continuer de développer les énergies renouvelables. Ces investissements nous permettront d'être à la hauteur de nos engagements. Au moment où nous allons clôturer la COP26 à Glasgow, c'est un message fort de la France. Vous le voyez bien. Et nous le pressentons tous. Dès à présent, nous nous préparons à affronter les défis de l'avenir. Car nous vivons une révolution profonde. Avec la pandémie, nous avons éprouvé notre vulnérabilité. Ce virus, soudain, a bloqué le monde entier. Nous avons redécouvert notre dépendance vis-à-vis de l'étranger, y compris pour des produits de première nécessité, des masques, le paracétamol ou d'autres. Nous avons réappris avec le vaccin que l'innovation pouvait tout changer, et parfois en quelques mois, avec une rapidité inédite. En même temps, les grands enjeux d'avant la crise n'ont pas disparu. La protection de la planète, le défi démographique, le vieillissement, la montée des inégalités. Nous avons donc, d'une manière inédite, tant de décisions à prendre en même temps, tant d'investissements historiques à faire. Pour relever tous ces défis, pour maîtriser notre destin, le marché seul ne suffit pas. Il faut assumer une intervention publique forte, avec, dans quelques domaines clés, des investissements importants. Des investissements de la nation, des investissements aussi de l'Europe. C'est pour cela que j'ai lancé le plan France 2030, doté de 30 milliards d'euros sur 5 ans, pour investir dans 10 secteurs très porteurs d'avenir, comme la décarbonation de l'industrie, le véhicule électrique, l'avion zéro carbone, ou encore la culture, la santé, le spatial ou le maritime, pour éduquer et former nos jeunes dans ces métiers d'avenir, pour sécuriser en France la production de composants et de technologies essentielles comme les semi-conducteurs, la robotique ou le cyber. Notre objectif est clair, que les produits et les technologies qui feront l'économie, les emplois et en quelque sorte les vies de 2030 ne viennent pas seulement des États-Unis ou d'Asie, mais bien aussi de France et d'Europe. Certains pensent ce rêve inatteignable. Je crois tout le contraire. Je crois que cela relève même de l'ambition faisable, du volontarisme lucide, si aujourd'hui nous continuons de mener les réformes, les transformations et si nous investissons. Oui, la France a les moyens de conforter ses positions de grande puissance, éducative, industrielle, agricole, d'innover, de créer et produire en tenant nos objectifs climatiques et de biodiversité. Si nous investissons, si nous levons les freins à l'action, les complexités inutiles et les corporatismes. Mais la France ne sera pas forte seule. Les enjeux sont tels dans le choc des puissances continentales qui se déploient sous nos yeux que seule une entente européenne, solidaire et volontaire, peut apporter à chacun de nos pays européens un relais et une force de frappe. Il suffit d'ouvrir les yeux pour mesurer combien nos intérêts se rencontrent et s'accordent. C'est dans ce contexte du choc des puissances américaines, chinoises, russes et de déstabilisation de nombreuses zones du monde que notre pays aura, dans 2 mois, la charge de présider l'Union européenne. Car les orientations de l'Union ne sont pas lointaines ou évanescentes. Elles sont même la trame de nos vies et des années qui viennent. Sans l'Union européenne, nous n'aurions pas si vite disposé du vaccin. Nos partenaires ne sont pas des étrangers. Sur ce continent qui nous a été donné par le destin, ils sont confrontés aux mêmes vagues, aux mêmes orages que ceux que nous rencontrons. C'est donc avec eux que nous tâcherons, dans les prochains mois, de mieux affronter les défis qui sont les nôtres. Ensemble, de mieux protéger nos frontières extérieures, ensemble de continuer à rebâtir avec l'Afrique une relation de paix, de stabilité et de croissance, ensemble de mieux réguler les géants du numérique, ensemble de bâtir une stratégie crédible de réduction de nos émissions de CO2 compatible avec notre souveraineté industrielle, technologique. Ce nouveau modèle d'investissement et de croissance auquel je crois pour la France et pour l'Union européenne est celui que je défendrai en votre nom dès janvier prochain en prenant la présidence de l'Union. Mes chers compatriotes, nous avons surmonté ensemble ces derniers mois une conjonction inédite de crises. La pandémie, ses conséquences, le terrorisme, les désordres géopolitiques et j'en passe. J'ai tâché à la cavalcade de retranscrire tout ce que nous sommes en train de faire et ce qu'il convient de conduire pour les mois à venir. Mais durant tous ces mois, nous sommes restés soudés, fidèles à ce que nous sommes, profondément humains. Alors je vois bien, je sens bien, j'entends bien l'incertitude, les doutes, parfois la fatigue, quelquefois la colère quand je viens à votre rencontre qui se manifeste. La période est difficile, pour beaucoup d'entre vous, angoissante. Mais regardez ce que nous avons réussi durant ces derniers mois, en agissant ensemble, unis. Nous avons réussi l'impensable. Alors je vous le dis avec beaucoup de conviction, n'ayons pas peur. Croyons en nous, croyons en la France, en une France qui reste elle-même, forte de son histoire, de sa culture, de sa langue, de sa laïcité, de ce qui l'unit, forte de son esprit de résistance à la dilution dans un monde qui va, à la soumission, aux dogmes, aux obscurantismes, au retour du nationalisme. Forte de sa volonté d'embrasser l'avenir et de continuer d'assumer sa part d'universel. Croyons en nous. Nous le méritons. Vive la République et vive la France.
20h27, voilà, c'était la 9e prise de parole d'Emmanuel Macron depuis le début de la pandémie. 27 minutes 30 secondes très précisément d'allocution, un petit peu comme en juillet dernier. D'abord, l'édition spéciale continue sur RTL. On va décrypter les annonces avec en studio Olivier Bost, l'éditorialiste politique Maison, Sophie Orange, donc qui scrute les courbes du Covid depuis maintenant le début de la pandémie, et Martial Liu, le chef de notre service éco. Et puis on va accueillir dans un instant nos invités, je vous les rappelle, Yves Verrier, secrétaire général du syndicat Force Ouvrière, et Gilles Pialou, chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Tenon à Paris. Ce sera intéressant d'entendre Gilles Pialou parce que c'est vrai que la tonalité est très sanitaire. Sophie, expliquez-nous, et notamment pour ceux qui sont derrière leur poste et qui peut-être ont raté le début de l'allocution, avec les annonces du président, qu'est-ce qui va changer dans notre quotidien ?
Alors on commence par les plus de 65 ans. À partir du 15 décembre, on peut dire que le pass sanitaire sera limité si vous ne faites pas votre dose de rappel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous voulez continuer à aller à la piscine, si vous voulez continuer à aller au restaurant, au cinéma, et que vous avez plus de 65 ans, il faudra faire cette dose de rappel 6 mois après la deuxième dose. Ça ne veut pas dire qu'à partir du 15 décembre, tous les plus de 65 ans vont devoir faire le 16 décembre leur dose de rappel. C'est vraiment la date de la deuxième dose qui est importante. Donc si on calcule le 15 décembre, si vous vous êtes fait vacciner avant le 15 juin, pour la deuxième dose, il faudra faire cette dose de rappel avant le 15 décembre. Sinon, vous ne pourrez plus utiliser votre pass sanitaire. Deuxième annonce du président de la République ce soir. Pour les 50-64 ans, ça représente 13 millions de personnes. Ouais. Donc, à partir du début décembre, on n'a pas de date précise, à partir de début décembre, les rendez-vous seront ouverts pour la dose de rappel, 6 mois toujours après la deuxième dose, pour les 50-64 ans. Cas particulier, si vous avez eu le Covid, si vous êtes rétabli, voilà, là on ne rentre pas dans les détails tout de suite là, mais en tout cas, à partir du 1er décembre ou du début décembre, pour ceux qui ont 50, 64 ans, 13 millions de personnes, vous pourrez prendre rendez-vous. Mais là, pour le moment, en tout cas, le pass sanitaire ne semble pas conditionné à cette dose de rappel. On verra si la campagne démarre doucement ou pas doucement, ça dépendra.
Voilà. Flou, on attend les modalités pratiques. D'ailleurs, le président l'a rappelé, elles ne sont pas toutes établies pour l'instant. Olivier, c'est le retour du sanitaire. dire en haut du haut des priorités à l'Élysée, on l'a bien compris. Hein.
Oui, et moi je vois surtout au-delà de ces questions sanitaires, effectivement, la question sanitaire pour la régler, c'est pour éviter des soucis dans les mois qui viennent, retomber dans une situation extrêmement compliquée, et une situation qui nous amènerait on ne sait pas dans quoi en fait, c'est-à-dire qu'on va quand même, on a une élection présidentielle en avril prochain, si on retombe dans un cycle sanitaire, c'est très compliqué. Moi, ce que j'ai retenu sur les deux tiers de l'intervention du président de la République et donc sur la fin, c'est surtout qu'il a réaffirmé en fait son positionnement politique dans une pré-campagne présidentielle à laquelle il ne participe pas. Et pour ça, il a répondu quelque part au pessimisme, au déclinisme, au repli.
Croire en la France.
Voilà. Dit-il. Et c'est une réponse notamment à tout le débat, on va dire initié ou provoqué par Éric Zemmour notamment et par l'émergence d'Éric Zemmour. Et il y répond à la fois par son bilan qu'il a longuement détaillé, économique.
Droit d'inventaire là.
Exactement, ça a été assez long sur le sujet. Il y répond par des réformes qu'il a pu faire, des réformes entamées et des réformes
qu'il
à venir.
Compte faire.
Voilà. Et il y répond également par son côté pro-européen. Et sur les réformes à venir, là c'est plutôt intéressant. Il y a le sort bien évidemment de la réforme des retraites. Donc c'est pas maintenant, mais en revanche, il pose tout le sujet pour que ça soit son sujet de campagne sur 2022 et ce qu'il compte en faire. Et puis ensuite, le nucléaire, ça c'est important parce que c'est notamment une réponse par rapport au positionnement écolo. Là, il annonce le lancement de construction, il y aura des constructions de nouveaux réacteurs.
Sans doute des EPR, on n'a pas de date, de calendrier précis. Mais
on a les intentions présidentielles ce soir et les intentions du candidat Emmanuel Macron.
On a un petit bout du programme du candidat Macron, effectivement, pour sa réélection. Martial Youx, là aussi, ça intéresse nos auditeurs. La réforme des retraites, ça a été un petit peu le feuilleton des derniers mois. Bon, là, elle est quasi enterrée. Les conditions ne sont pas réunies, dit-il.
Oui, elle est carrément, même on peut le dire ce soir, enterrée jusqu'à la fin de ce quinquennat, puisque en réalité, en justifiant ce report, il est en train de mettre dans le même paquet tout ce qu'on lui disait en amont pour ne pas y aller. C'est-à-dire, à la fois, ne remettons pas le feu à la rue, il parle de concorde, ne mettons pas à nouveau les syndicats contre nous, il les évoque comme un élément à prendre en compte pour ne pas redémarrer cette réforme des retraites maintenant. Et puis, il y a l'argument politique qui est de dire je fixe un cap, et vous aurez noté qu'on ne parle plus du tout de réforme à points, on est sur du paramétrique, c'est-à-dire un prolongement de l'âge de départ à la retraite, ouais. et puis finalement des conditionnalités qui sont celles, on parle des régimes spéciaux qui sont déjà enclenchés, hein, parce qu'il y a beaucoup de régimes spéciaux qui sont déjà passés outre, puisque les nouveaux cheminots ne sont plus embauchés avec les régimes spéciaux d'avant. Bref, il est en train de fixer un cap qui n'est pas celui qu'il avait initialisé au départ dans sa réforme des retraites, et il en fait un enjeu politique en disant il y aura un blanc-seing qui sera l'élection présidentielle, et si vous me mandatez pour un nouveau...
C'est pour ça, Martial, que le mot enterrement me semble un tout petit peu excessif, si je peux me permettre.
C'est
repoussé, c'est effectivement, mais c'est pas un enterrement au sens la réforme, les principes sont là, simplement c'est pour
plus tard. C'est pour ça que j'ai dit, pour ce quinquennat-là, oui. C'est enterré. Voilà. C'était pas très difficile à deviner vu les échéances, mais... Ouais. Et alors, pour rebondir sur ce que disait Olivier, par rapport au discours politique, il y a quelque chose qui m'a frappé sur la fin, c'est le « n'ayons pas peur ». C'est-à-dire qu'au moment où on sent le discours en direction de la droite traditionnaliste, on va dire, et donc de Zemmour ou de Le Pen, « n'ayons pas peur », c'est l'encyclique de Jean-Paul II. « N'ayez pas peur ». Et donc, je pense que c'est beaucoup plus réfléchi, cette petite phrase-là, qu'elle n'y paraît.
Oui, sans doute, effectivement. La campagne présidentielle a quelque peu commencé aux alentours de 20h. Ce soir, on va continuer de débriefer, bien entendu, cette allocution du président de la République. On va accueillir nos deux invités juste avant la courte pause. Gilles Pialoux, chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Tenon à Paris. Bonsoir Gilles Pialoux.
Oui, bonsoir.
Et Yves Verrier, le secrétaire général du syndicat Force Ouvrière. Bonsoir Yves Verrier.
Bonsoir.
On vous donne à tous les deux la parole juste après ça. L'édition spéciale continue sur RTL.
RTL Soir. RTL Soir, édition spéciale.
20h35, effectivement, l'édition spéciale continue jusqu'à 21h pour décrypter sur RTL la prise de parole d'Emmanuel Macron, 27 minutes et 30 secondes d'allocution. En studio, Olivier Bost, Sophie Orange, Martial Youx, nos éditorialistes et spécialistes maison, et puis nos invités. Au bout des lignes, Yves Verrier, le leader de Force Ouvrière, et Gilles Pialoux, chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Tenon à Paris. Gilles Pialoux, je me tourne vers vous tout de suite. C'est vrai que la principale annonce, elle est sanitaire ce soir. Le président lit la troisième dose, en tout cas la rappelle, et le pass sanitaire pour les personnes à risque, les personnes de plus de 65 ans à partir du 15 décembre. C'est la solution, c'est la bonne solution pour maîtriser, ce sont les termes du président, l'épidémie.
Non, on sait clairement, et ça le président a beaucoup aidé dans ce sens-là avec son discours du 12 juillet et puis le pass sanitaire qui a suivi, que c'est la vaccination qui permet d'abraser les vagues successives, comme ça a été le cas pour la vague actuelle, et en tout cas au niveau de l'hospitalisation, des formes graves et de la réanimation. Donc oui, on peut saluer le nouveau coup de pouce que nous donne le président de la République pour augmenter le niveau de vaccination. Après, est-ce que le curseur est au bon niveau? C'est l'avenir immédiat qui le dira. Il y a des moyens de contrôler que les gens ont moins de 65 ans, bien sûr, mais il n'y a pas de moyen de contrôler que les gens sont obèses, diabétiques, insuffisants cardiaques et tout ça. Donc je regrette un peu que les comorbidités étaient oubliées, mais c'est un élément important et ça va. Et d'ailleurs, on sait déjà par Doctolib que ça augmente en anticipation.
Oui, 98 000 prises de rendez-vous sur Doctolib en 24 heures pour la troisième dose. C'est effectivement un record. Avant même la prise de parole d'Emmanuel Macron, il y a eu un effet sur les prises de rendez-vous. Ça fonctionne bien, oui. L'allocution à 20h, effectivement, pour booster la vaccination. Sophie, effectivement, c'est une question pratique. D'ailleurs, les modalités ne sont pas arrêtées. Comment ça va fonctionner? Comment on va pouvoir vérifier que des personnes à comorbidité sont bel et bien vaccinées avec une troisième dose,
hein? Alors, les personnes à comorbidité ne sont pas concernées par cette date du 15 décembre. Le président parle bien des plus de 65 ans.
Plus de 65 ans uniquement.
Donc, d'accord. Les comorbides, les obèses, les diabétiques, les personnes qui ont eu des greffes, voilà, toute une série de maladies, une liste très très précise qui vraiment fait partie d'une liste du journal officiel. Ces personnes-là ne sont pas concernées parce qu'effectivement c'était un peu compliqué. On avait là aussi un risque de violation du secret médical. Si jamais on voit que vous avez fait une troisième dose quand on regarde votre passe en arrivant au restaurant, même si d'un point de vue informatique on peut trouver une solution. Mais en tout cas, voilà, pour les plus de 65 ans, il y aura un code source différent sur le QR code pour montrer que vous avez fait votre troisième dose, tout ça à partir du 15 décembre. Et c'est vrai que sur les comorbides, ce sont aussi des gens qui sont très à risque. Aujourd'hui, ils sont très peu nombreux, 20% à peine avoir fait cette dose de rappel. C'est difficile de se dire, voilà, est-ce que moi je suis concernée? À partir de quelle obésité, par exemple, quel degré d'obésité je suis concernée par cette dose de rappel? Donc là, je pense que c'est les médecins généralistes, les médecins qui suivent tous ces malades, qui doivent être très très vigilants.
Donc là, on est d'accord autour de la table, avec ce critère simplement de l'âge, entre guillemets, on s'achète la possibilité d'avoir quelque chose de constitutionnel et qui ne soit pas retoqué, c'est ça l'idée?
Oui, là, il y a assez peu de chances que ce soit retoqué, et il y a surtout une grande chance que ce soit très efficace pour inciter les plus de 65 ans à prendre ce rendez-vous pour la dose de rappel.
Gilles Pialoux, vous parliez de curseur, il y avait une autre possibilité pour ne pas être retoqué en quelque sorte, c'était la troisième dose pour tous. C'est un vrai débat aujourd'hui dans la communauté scientifique. Karine Lacombe, tient du conseil scientifique, ce matin se disait favorable à cette troisième dose pour tous. Il y a des épidémiologistes notamment qui disent aujourd'hui que ça empêcherait notamment les vaccinés de se contaminer entre eux.
Oui, alors, c'est vrai qu'on est dans une période où il y a beaucoup de confusion. Karine a raison de donner sa position là-dessus. Moi, ma position était que tant qu'on montre que la protection contre les formes graves est assurée. Alors, vous avez remarqué que le président ne dit plus la troisième dose, il dit le rappel. Il a bien suivi ses conseillers en communication, parce que c'est un rappel et c'est plus acceptable qu'une troisième dose pour l'opinion publique, parce que troisième dose est égale quatrième, cinquième, etc. Un rappel, c'est plus dans la conception du vaccin. Mais pour moi, à partir du moment où il y a une protection contre les formes graves et qui est assurée, même si elle peut être éventuellement diminuée, ça me semble pas une priorité en population générale et qu'on a d'autres choses à faire, notamment aller chercher, comme l'a dit Sophie Orange très justement, les comorbides qui n'ont pas leur troisième dose et ceux qui n'ont même pas eu une seule dose de vaccin.
À peu près 7 millions de personnes qui ne sont toujours pas vaccinées. Sur la population générale, il faut quand même se souvenir que le gros de la vaccination, c'était juillet-août. Et donc, si on calcule juillet-août, la troisième dose, la dose de rappel, ce sera plutôt janvier, février, mars. Donc, il n'y a peut-être pas urgence pour l'ensemble de la population aujourd'hui. Il faut vraiment faire comme la campagne de vaccination initiale pour la première dose, la deuxième dose.
Petit à petit. Âge par âge.
Exactement. Et on a montré quand même en France l'efficacité de ce dispositif.
Olivier Bost, il s'est adressé notamment Emmanuel Macron au nom vaccinés aujourd'hui avec Beaucoup de pédagogie d'ailleurs.
Alors, en fait, le pari qu'il avait fait en juillet, quand même, c'était que ceux qui. C'était bon, une vague de vaccination provoquée. Mais en revanche, aujourd'hui, ceux qui ne se font pas vacciner, très clairement, là je parle d'un point de vue purement politique, hein, c'est pas des gens qui sont proches d'Emmanuel Macron et c'est pas des gens qu'il concerne. Donc il peut se montrer dur vis-à-vis de ces gens-là et ça peut même plaire à tout le reste de ses électeurs.
Son électorat potentiel.
Voilà, de son électorat potentiel. Là, c'est pour parler de la dimension purement politique de cet aspect sanitaire.
Avec quand même un message avec le mot liberté, c'est être libre que de se faire vacciner, puisque vous pouvez aller avec votre passe sanitaire au cinéma, à la piscine, etc.
C'est une réponse aux
antivax, qui, pour qui le passe sanitaire, justement, est une entrave à la liberté.
Gilles Pialoux, on n'a pas eu un mot, par contre, de la vaccination des enfants. On sait que c'est une question qui va se poser, là, en fin d'année. Les Américains commencent à vacciner les 5-11 ans. Je parle des enfants, des jeunes enfants. Vous regrettez que le président n'ait pas pris la peine de dire un petit mot, en tout cas sa position sur ce sujet ?
Non, parce que je pense que c'est un terrain difficile pour le président de la République. C'est très technique. On manque de données, on manque de recul chez l'enfant. Il y a une problématique entre protection individuelle et protection collective. Je pense que l'opinion publique n'est pas mûre, à mon opinion, hein, n'est pas mûre pour aller plus en avant vers l'accélération de l'enfant, contrairement à ce qu'a fait les États-Unis. Mais les États-Unis n'ont peut-être pas les mêmes enfants qu'en France. Enfin, il y a une discussion sur le taux d'obèse. Moi, ce que je regrette, c'est, puisque vous me donnez la parole sur les enfants, c'est que je regrette qu'on n'ait pas parlé de l'angle mort de l'école, parce qu'un coup on met les masques, un coup on les enlève, après on suit les départements.
Oui, le président dit
que
le port du masque va être maintenu à l'école, mais effectivement il y a toujours des départements où à l'école primaire il n'y a pas de masque aujourd'hui. 39 départements ont remis le masque à l'école en début de semaine à la rentrée.
Il y a 61 départements avec masque et donc la différence
sans masque. Une trentaine de départements où à l'école il n'y a pas de masque. Ça vous inquiète, Gilles Pialoux ?
Oui, ce qui m'inquiète, c'est que depuis le début, et notamment avec le discours du ministre de l'Éducation nationale, on a un angle mort qui est l'école, et c'est là où circule le virus, même si effectivement les enfants sont peu malades, avec effectivement très peu de formes graves, et on a surtout un déficit, et là franchement, il y a un mot qui a manqué, c'est le mot dépistage. Je n'ai pas écouté vraiment comme ça avec un prompteur, si je puis dire, mais je n'ai pas entendu le mot dépistage. Le dépistage est un outil de prévention combinée dans cette histoire, et notamment chez ceux qui ne sont pas vaccinés, a fortiori les moins de 12 ans.
Mais les parents n'en veulent pas du dépistage. Quand on propose des tests salivaires dans les écoles, il y a un parent sur deux qui refuse le dépistage. Donc vous imaginez la vaccination.
J'ai accepté, moi.
Oui, forcément. Forcément, mais voilà, il y a quand même un gros effort à faire.
Il y a un biais.
C'est un petit biais léger. Mais effectivement, voilà, les parents refusent le dépistage pour leurs propres enfants. C'est quand même assez incompréhensible d'un point de vue sanitaire.
Dernier point, Gilles Pialoux, là j'imagine que vous applaudissez. Les contrôles du pass sanitaire vont être renforcés, dit le président. Il l'a lui-même dit, on a tous relâché nos gestes barrières. Effectivement, la bise à Angela Merkel. Et c'est vrai qu'on a effectué une enquête RTL avec un reporter ce matin. Alors elle n'est pas exhaustive, hein, mais sur 10 bars, restos parisiens. Notre reporter, il a été contrôlé 5 fois. Il y a du relâchement, il est temps de renforcer les contrôles, Gilles Pialoux.
Je crois que le message était très clair, hein, le port du masque, les gestes barrières, le contrôle du pass sanitaire. On a une étude qui s'appelle Coviprév qui montre très clairement qu'on est en dessous de 60% de ces gestes globalement, hein, en incluant effectivement la bise, etc. Effectivement, ça participe énormément à la circulation du virus, a fortiori dans une période hivernale avec moins de ventilation, etc. Je pense que ces mesures et ce renforcement du contrôle vont aider et vont pousser finalement l'effet de la vaccination sur le remplissage des hôpitaux et des réanimations.
Merci Gilles Pialoux, chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Tenon à Paris, d'avoir été avec nous dans cette édition spéciale ce soir pour commenter le volet sanitaire des annonces d'Emmanuel Macron après sa 9e prise de parole depuis le début de la pandémie. Cette prise de parole, on va continuer de la décrypter dans un instant avec Yves Verrier, le secrétaire général du syndicat Force Ouvrière, qui patiente et on s'en excuse, et avec Martial Liu, le chef du service Éco, parce qu'on l'a dit, la réforme des retraites est quasi enterré. À tout de suite sur RTL.
Julien Cellier. RTL Soir, édition spéciale, Julien Cellier.
Édition spéciale depuis 20h sur RTL. Vous avez suivi avec nous l'allocution du président de la République entre 20h et 20h27. Elle a duré 27 minutes et 30 secondes. On a beaucoup parlé du volet sanitaire. On vient justement de l'évoquer avec notre invité Gilles Pialoux, chef de service d'un service d'un grand hôpital de Paris. On va maintenant s'intéresser au volet économique avec notre second invité, Yves Verrier, Verrier, secrétaire général du syndicat Force Ouvrière. Rebonsoir Yves Verrier, merci d'avoir patienté, d'être resté avec nous dans cette édition spéciale sur RTL. On a besoin de vous trancher le débat là, entre Olivier Bosse, l'éditorialiste politique, et Martial Hull, chef du service éco. Martial dit, bon, elle est enterrée la réforme des retraites. Olivier dit, pas vraiment. Les conditions ne sont pas réunies, dit Emmanuel Macron. Vous, depuis des mois, vous dites sur cette réforme, je reste sur mes gardes. Est-ce que vous êtes encore sur vos gardes ce soir ?
Bah, disons que je le resterai de toute façon toujours, parce que je pense qu'on peut effectivement. Moi, j'avais beaucoup insisté, j'avais été interrogé il y a quelques jours sur une télé sur ce que j'attendais de cette allocution, et sur le sujet, j'avais beaucoup insisté. Le président de la République d'ailleurs vient de le dire, et vous venez d'en parler avec Monsieur Pialou, on est toujours sous le régime de la pandémie, et donc on n'avait franchement pas besoin de faire revenir un dossier qui a créé de la tension. On a besoin d'apaisement, et j'espérais qu'effectivement on soit entendu à cet égard. Donc d'une certaine manière on l'est. Maintenant, je n'ai pas de doute sur le fait qu'il ne se sépare pas de son idée de vouloir conduire une réforme des retraites. D'ailleurs, il a mis en avant la réforme de l'assurance chômage. Elles sont très liées, hein, l'une et l'autre. Hein. Oui. Il s'agit de faire des économies. Il faut bien comprendre une chose. D'ailleurs, maintenant, c'est très clair. Hein, système, pas système, paramétrique, systémique. L'objectif, il est de reculer l'âge de départ à la retraite. Or, quand dans la situation qui est celle d'aujourd'hui, un salarié sur deux, au moment de faire valoir son droit à la retraite, n'est plus en emploi pour une raison ou pour une autre, reculer l'âge de départ à la retraite débouchera, parce que ça ne concernera que ceux qui ont encore, entre guillemets, la chance d'avoir un emploi au moment de la retraite, débouchera sur une baisse globale des pensions. C'est ça l'objectif, rappelez-vous. Hein. Ce qui était systématiquement mis en avant, c'était le coût des pensions. Ouais. Voilà, donc...
Olivier, on peut dire que le président a enterré la réforme des retraites, mais le candidat, lui, garde le débat bien ouvert pour les cinq mois qui arrivent avant l'élection présidentielle.
Oui, puis en imposant quand même très clairement effectivement les contours, bases, parce qu'il y a effectivement l'allongement de la durée du travail, il y a également la fin des régimes spéciaux, et il y a quand même le minima aussi, 1000 euros de retraite minimum. Là, on a toutes les bases d'une réforme des retraites pour le candidat Macron. Ce soir, on a la complète. Alors,
simplement, il faut pas avoir la mémoire courte. Et là-dessus, Yves Verrier peut rebondir aussi. C'est-à-dire, il faut voir d'où on est parti. C'est-à-dire que le candidat 2017 Macron nous annonce une réforme profonde de la retraite par points. On aboutit à du Hollande plus, quoi. Hein. C'est du Touraine un peu plus loin, quoi. C'est tout. C'est-à-dire qu'on repousse l'âge un peu plus loin. Les régimes spéciaux, on a déjà enclenché le mouvement. Et effectivement, personne évidemment pas les syndicats ne pourront s'opposer à ce que le minimum retraite soit à 1000 euros. Mais on est quand même très en deçà de ce qu'on pouvait attendre du premier candidat Macron.
Yves Verrier.
Oui, mais attention, ne vous faites pas d'illusions. Hein. Sur les 1000 euros, nous avions posé la question. Bien sûr que l'idéal serait que d'ores et déjà, personne ne soit en dessous de 1000 euros de retraite. Malheureusement, on n'y est pas. Mais les 1000 euros de minimum de pension évoqués par le président, nous avions posé la question, nous, au moment du débat sur le sujet, c'était déjà venu. Les conditions pour pouvoir bénéficier de ce minimum de pension, c'est une carrière complète. La carrière complète, c'est 43 ans, demain avec Madame Touraine de toute façon, et au SMIC à temps plein. Ben moi, je vais vous dire, hein, celui ou celle qui aujourd'hui travaillerait au SMIC à temps plein une carrière de 43 ans, d'abord, il y en a certains qui seraient contents d'avoir un temps plein sur toute leur vie active, même malheureusement seulement au SMIC, parce que beaucoup ne l'ont même pas. Et deux, aujourd'hui, il les a, les 1000 euros de pension. Donc, ça n'est pas un progrès pour les salariés, en tout cas. Quant au sujet parti de fond et arrivé là, oui, je pense que ce que nous avons réussi, c'est expliquer à quel point cette réforme systémique n'était pas fondée. Parce que le problème des retraites, ce n'est pas le système d'aujourd'hui, c'est l'emploi, la qualité de l'emploi.
Yves Verrier, vous parliez de temps plein. Il a beaucoup parlé d'emploi ce soir, Emmanuel Macron, et on sent dans ses propos qu'une certaine fierté, en substance, la France approche du plein emploi. Bon, vous, quand vous regardez les chiffres du chômage, vous avez une vue quelque peu différente, et vous insistez sur les contrats courts, les contrats précaires qui restent très importants. Il y a tromperie sur la marchandise, là, dans le bilan du président, quand il le dit comme ça ?
Mais il y a d'abord un rebond en termes de création d'emplois en ce moment, mais qui est le rebond après un ralentissement très net de l'économie. Donc, tant mieux. Moi, le plus vite l'emploi repart, le mieux c'est. Cela étant, les derniers chiffres de Pôle emploi sur le trimestre de cet été, hein, juillet, août, septembre, montrent qu'on est encore avec 4 millions d'emplois créés. Ce sont des contrats de moins d'un mois. Et cette réforme de l'assurance chômage, je regrette. D'abord, quand on est demandeur d'emploi, ce n'est pas de l'inactivité.
Indispensable, dit Emmanuel Macron sur cette réforme.
Oui, indispensable pour contraindre les demandeurs d'emploi à accepter de prendre des petits jobs. Or, encore une fois, puisqu'il nous dit qu'il faut qu'il y ait du travail, plus de travail, ce qui manque dans le propos, c'est la qualité des emplois et la valeur du travail. Eh bien, moi, je vais vous dire, c'est simple, hein, c'est le salaire. Et tous les dispositifs qu'il a mis en avant au titre de son bilan, la prime d'activité, les mesures en faveur du pouvoir d'achat, en dehors de celles, par exemple le Ségur, qui sont là, effectivement, de la revalorisation de salaire et de quelques autres mesures sectorielles, elles ont toutes, en fait, c'est une réponse à un problème de pouvoir d'achat, l'indemnité inflation, le chèque énergie, la prime d'activité, mais ça n'est pas une revalorisation du travail, ça conduit à éviter d'avoir à augmenter les salaires. Et je regrette que le gouvernement ne se tourne pas vers une augmentation franche du SMIC, parce que le gouvernement lui-même en fait la démonstration, puisqu'il invite branches, les organisations patronales, à ouvrir des négociations dans les branches qui sont rattrapées par le SMIC. Augmenter le SMIC, ça booste les négociations de salaire dans tous les secteurs d'activité.
Olivier Bost.
Est-ce que vous avez été surpris par le fait que le président de la République dise que les allocations chômage sont gelées s'il n'y a pas de recherche active ? Est-ce que pour vous, c'est un durcissement de son ton, de la réforme de l'assurance chômage, ou c'est quelque chose que vous attendiez ?
Ben, c'est déjà des sanctions qui existent, hein. Elles ont été mises en place, c'est pas nouveau ça. Ça, c'est les dernières réformes.
Alors, ce soir, et
vous avez compris comme moi que ça ressemblait quand même à un bilan d'activité. Hein. Globalement,
bilan d'activité,
il a rappelé toutes les réformes qu'il a mises en place, dont celle-ci.
Une pré-campagne présidentielle.
Sur le chômage, quand même, juste un mot, parce que c'est bien de critiquer et c'est légitime. Enfin, le bilan, quand même, de Macron, c'est un chômage à 9,5% en 2017 quand il arrive. Il y a une crise qu'on a connue l'année dernière et on est en train d'aller vers 7%. Ouais. D'ailleurs, il fixe un nouveau cap qui est maintenant le plein emploi, qui est en dessous de 7%. C'est autour de 5% le plein emploi.
Olivier Bost, pour terminer juste sur ces deux minutes, on l'a esquissé pendant ce débriefing, entre guillemets, ce décryptage de l'allocution d'Emmanuel Macron. On en parlait avec Yves Verrier à l'instant. Il y a une sorte d'inventaire des mesures. On a même eu droit à des chiffres précis sur la délinquance qui a baissé pendant le quinquennat. On a eu en gros un quart d'heure du discours du président de la République consacré à son bilan, à ce qu'il souhaite faire après 2022. Ça y est, il est en campagne, même s'il ne le dit pas officiellement, le président de la République.
Pour vous résumer cette intervention, en fait, on a pris ce soir une troisième dose. Hein, et puis une très grosse... Ça c'est la campagne de côté sanitaire, la troisième piqûre. Et puis une très très grosse dose, effectivement, de politique, avec le bilan, la défense du bilan, l'importance des réformes. Là, on trouve la mutation vers le candidat qui rappelle que il est d'abord un réformateur, avec un axe très très important sur le travail, et ça parle à une partie très importante de son électorat. L'électorat d'Emmanuel Macron, c'est simple, hein, il veut qu'il réforme, il veut que ça aille mieux sur le plan
pendant cette allocation
économique,
travail.
Et il veut effectivement de l'optimisme, c'est-à-dire que c'est pas du Zemmour, c'est pas de la décroissance, tout ce qu'on a dans le paysage politique, c'est ce « n'ayons pas peur et croyons en nous ». Ça, c'est quasiment l'argument de campagne, le slogan de campagne pour Emmanuel Macron.
Merci Olivier Bost, éditorialiste politique maison ici sur RTL. Merci Martial You, chef du service Eco. Merci Sophie Orange, spécialiste du Covid depuis le début de cette pandémie, d'avoir décrypté cette prise de parole du président de la République avec nous dans cette édition spéciale. Merci à vous Yves Verrier, le leader de France Ouvrière, et merci à Gilles Pielloux qui était avec nous, chef de service dans un grand hôpital parisien. Voilà, l'édition spéciale se termine. Vous avez suivi l'allocution du président. On l'a décrypté. On continuera de la décrypter demain matin, bien entendu, sur RTL. Je vous rappelle
avec les mêmes.
avec les mêmes. Olivier sera là, pas vraiment avec les mêmes. Tiens, Xavier Bertrand sera demain matin l'invité de RTL à 7h40, l'un des candidats républicains à l'Élysée. On aura l'occasion de parler des volets sanitaires et économiques et politiques, bien entendu, avec lui. Rendez-vous donc dès demain matin, 4h30, dans nos rendez-vous d'infos pour refaire encore une fois l'allocution du président. La suite, c'est Bonus Track et les infos de 21h sur RTL.
De Sarah Abitbol, Supernova, le nouveau spectacle du Holiday on Ice dans toute la France à partir du 4 février 2022 avec RTL.